Occitanie première, et c'est la 10e édition d'Oxyfoot, votre rendez-vous de football hebdomadaire en Occitanie. Je suis Quentin Marais et c'est à nouveau un plaisir de vous retrouver pour démarrer la semaine ensemble. Comme d'habitude, ils seront deux à m'accompagner pour cette 10e édition. Du côté de Footpi, c'est Kevin Thierry, survette de la JOCR, qui est en face de moi et qui succède à Xavier Bedos. Salut Kevin.
Bonsoir Quentin.
Comment ça va ?
Ça va.
Bon, très bien. Et à ma droite, il est passé par le TFC avant et après ses piges au Paris FC notamment. C'est le défenseur Jules Chimbakala. Bonsoir Jules.
Bonsoir tout le monde.
Comment ça va ?
Ben, très bien.
Eh ben, tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Alors on peut démarrer cette 10e édition d'Oxyfoot ensemble. Alors pour rappeler bien évidemment le programme de cette émission, on va faire un petit tour des résultats du week-end avant de faire une petite interview de Jules que l'on connaît bien mais qu'on va essayer de connaître encore mieux. On fera ensuite un petit quiz, voilà, après bien évidemment la pause musicale avec la musique choisie par notre invité. On va commencer tout de suite, si vous le voulez bien messieurs, par les résultats et avec vous Kevin. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end sur les terrains occitans ?
Alors, principalement la Coupe, quasiment même pas de championnat. Les peu de championnats qu'il y avait, c'était en National 3 entre Rodéo et Blagnac, ça a été reporté. Donc principalement la Coupe avec la Coupe d'Occitanie et la Coupe de France chez les féminines. Donc en Coupe Occitanie, moi qui suis principalement pour Footpile 82 en Tarn-et-Garonne, Golfech et la Française se sont qualifiés. Donc Golfech pour, si je ne me trompe pas, les 8e et la Française pour les 16e de finale. Et ensuite, au niveau des 16e de finale, pas de très grosse surprise au niveau Occitanie, puisque Porté a éliminé Plaisance 2-0 avec un doublé de Tavares. Hoche qui a éliminé aussi une PL Argelès, 3-1. Et un duel de DH où Luc la Primob a éliminé Pradine 4-3. Voilà. Après, il y a eu d'autres résultats, quelques matchs reportés. Mais voilà, en gros, c'est ce qui s'est passé dans le week-end. La Coupe Occitanie. Juste un petit mot sur les féminines, la Coupe de France. En sachant que nos équipes régionales Rodez et le TFC se sont qualifiées. Rodez qui est allé gagner à Grenoble, qui est une équipe de division 2 dans le groupe de Montauban. Et le TFC qui est allé gagner à Monteux, 1-0 avec un but de Palou. Malheureusement, la SPTT Albi s'est inclinée 2-0 à Montpellier, une D1 qui est en Ligue des Champions cette saison. Donc 2-0, c'est pas...
C'est honorable.
C'est honorable, voilà.
C'est honorable. Et on ne s'était pas retrouvé depuis le match de Coupe de France de Colomiers. On rappelle les Colomériens qui se sont inclinés 2-1 face à Sochaux. Là aussi, un très très beau parcours hein, pour les camarades de Rémi Goril que l'on avait pu entendre sur les ondes d'Occitanie Première dans cette émission. Ils vont s'en servir de ce parcours forcément.
Oui, c'est toujours des parcours intéressants, surtout pour ce genre d'équipe. Alors, ils se font éliminer par le FC Sochaux-Montbéliard. Avec les honneurs, voilà. Après, je pense que sur un groupe, on sait que la coupe c'est quelque chose de particulier. Souvent, c'est aussi, ça permet de vivre une aventure collective. Je pense que Jules, qui a un parcours pro et amateur aussi, pourrait peut-être plus nous en parler, sachant qu'il a aussi gagné une coupe la saison dernière. Donc voilà. Oui, ça, je pense que la coupe, ça permet de rassembler et de vivre une aventure collective, pas que footballistiquement entre joueurs, mais je pense que c'est tout un club qui se souviendra de cette aventure, les joueurs, les dirigeants, et peut-être les petits bouts de chou qui sont aujourd'hui peut-être en U7 et qui rêveront peut-être d'arriver au même niveau dans quelques années, quoi.
Et justement, Kevin, belle transition. Jules, tant qu'on vous a avec nous, à profiter voilà, d'être dans ce week-end de coupe un petit peu. Est-ce que vous, déjà, dans la manière d'aborder les matchs de coupe par rapport aux matchs de championnat, est-ce qu'il y avait une certaine différence ? Est-ce que vous les abordiez de la même façon ? Étant donné qu'on sait que, bon, à l'issue des 90 minutes, voire plus, on peut ne on peut être sorti. C'est forcément une manière différente d'aborder par rapport à un match de championnat.
Complètement. C'est vrai que la coupe, c'est vraiment quelque chose de spécial. Là, pour ne prendre que l'exemple de cette équipe de Colomiers, qui fait un très très beau parcours déjà en championnat, la coupe, c'était du bonus. C'était quelque chose en plus, je pense, qui permet d'ancrer encore plus une équipe dans le cœur des supporters et puis surtout de la région. Donc un parcours comme ça, c'est énorme. Le manque de bol, je dirais, parce que j'ai regardé le tirage au sort et c'est Sochaux tombe contre le Paris Saint-Germain.
Mmh. Oui.
Donc c'est dommage. C'est vraiment dommage.
C'est vrai pour le coup. Même si voilà, on avait eu encore une fois Rémi Goril qui avait dit que le pire tirage aurait été de se déplacer chez une N1, recevoir déjà une équipe professionnelle, c'est quelque chose un peu comme, on le rappelle à nouveau, Tournefeuille qui avait reçu Niort.
Non, je pense que pour tous ces joueurs-là, c'est quelque chose qui restera gravé pendant un bon moment. Donc, non, c'est que du plaisir, ça. C'est que du plaisir.
Jules,
maintenant, il va falloir qu'il se concentre sur le championnat.
Voilà, et il se concentre plutôt bien, puisqu'il continue de faire un très, très beau parcours.
Patrice Jules, Morel fait du beau travail.
On va se tourner vers vous. Alors, 47 ans depuis 2 semaines pile poil, aujourd'hui. Voilà.
Oui.
On a vu votre parcours, on le revoit au Paris FC. Vous êtes passé à Toulouse, au Mans, à Tours. Vous êtes revenu au Paris FC avant de passer à Rovers en Écosse. Et ensuite, vous avez traversé les clubs occitans, Saint-Jean, Masgrenier, Savennes, La Française et la Bastide du Temple. Alors, voilà, quand vous entendez tous ces passages que vous avez effectués, qu'est-ce que vous en retenez, vous ?
Ben, j'en retiens que aujourd'hui, c'est le terrain déjà, c'est terminé. Donc maintenant, ce que j'envisage prochainement, c'est vraiment de me consacrer à cette activité sur le banc. Mais j'en retiendrai que c'est passé très très vite. Et le message que je pourrais faire passer à tous ceux qui jouent aujourd'hui, c'est d'en profiter parce qu'on a l'impression qu'on a le temps, mais on se réveille un matin et c'est terminé, quoi. Voilà, donc y a beaucoup de choses à faire, mais faut pas les arder, quoi. Voilà.
Oh, c'est bon signe, remarque, parce que c'est vrai quand on se dit que le temps passe vite, c'est qu'on s'épanouit dans ce qu'on fait, donc c'est que vous avez pris du bon temps.
J'ai pris du bon temps, alors il y a eu des périodes difficiles, comme dans tout parcours, mais au final, on retient vraiment que le bon est... Moi, ce que je peux dire, vraiment, c'est d'en profiter, c'est ce que j'avais coutume de dire à mes joueurs... Chérissez chaque moment, quoi, parce que demain, quand ça sera terminé, il n'y aura plus que les souvenirs, quoi. Voilà.
Alors, pour revenir au tout début, au commencement, vous êtes né à Pointe-Noire, au Congo. Qu'est-ce qui vous a amené vers le ballon rond ?
C'est-à-dire que le ballon rond, dans la famille, c'est une tradition. Hein. J'ai mon oncle qui était international congolais.
Gervais, c'est ça ?
Gervais,
ouais.
Voilà. Donc... et mon autre oncle qui a pas fait une carrière de haut niveau, mais bon, ça a toujours été dans la famille. Ma tante également, qui était capitaine de l'équipe nationale de handball et de basket au Congo. Donc bon, le ballon a toujours roulé dans la famille, quoi.
Oui, ballon rond en plus.
Voilà, donc,
pas de perte de repère. Votre premier club en France, c'est Aulnay-sous-Bois,
c'est ça ? C'est le CSL Aulnay-sous-Bois,
c'est ça,
voilà, dans 93.
Donc, 93, d'accord.
C'est ma première licence à l'âge de 13 ans. Donc jusqu'alors, c'était le foot de rue qui m'a beaucoup appris et apporté énormément. Et donc ensuite, cette licence à Aulnay-sous-Bois où j'ai passé 2 saisons avant de rejoindre le Paris Football Club.
Alors justement, vous arrivez au Paris FC qui évolue à ce moment-là en 3e division. Comment se passe cette expérience ?
Non, le Paris FC à cette époque-là n'évolue même pas encore en 3e division.
L'équipe
première est en DH.
Est en DH.
L'équipe première est en DH, donc j'intègre les catégories de jeunes donc, au niveau cadet nationaux. Et on suit le parcours classique, junior à l'époque, et jusqu'à intégrer la réserve de l'équipe première. Et par la suite, c'est Pierre Lechante donc, qui m'a lancé dans le grand bain avec l'équipe première qui évoluait à ce moment-là en 3e division. Quoi.
Alors pour le coup, la découverte du monde de pro SVO-TFC ?
Exactement.
TFC, la signature du premier contrat pro, comment est-ce qu'on la vit ? Est-ce que c'est un soulagement, une consécration, les deux ? Comment ça s'est passé pour vous à ce moment-là ?
Je dirais que c'est quelque chose d'assez assez bizarre parce que pendant des années, mon souhait, c'était de connaître ça avec le Paris Football Club. Puisque c'est un club quand même qui a toujours eu des ambitions et puis qui a toujours essayé de se donner les moyens de rejoindre l'élite. Mais bon, ça s'est pas fait jusqu'à ce que donc le TFC me contacte. Et bon, là, à un moment donné, il fallait bien prendre une décision. Et je n'allais pas n'importe où non plus, quoi. Donc, et l'apprentissage du monde pro à Toulouse, sous les ordres de Roland Courbis, pendant 6 mois, puisqu'il est parti, et ensuite avec Alain Giresse. Donc, quelque chose d'assez particulier, parce que quand on vient du monde amateur comme moi, la transition c'est pas faite naturellement, même si au Paris FC déjà je côtoyais entre guillemets un peu le monde pro, parce qu'on avait quand même pas mal d'anciens pros qui venaient y terminer leur carrière, notamment Omar Da Fonseca, Jean-François Charbonnier. Bon, voilà, j'ai appris le métier avec des gars comme ça, quoi. Mais après, quand on arrive à Toulouse, bon, c'est un métier, c'est oui. Autre chose.
Ce qui était autre chose par rapport au Paris FC, justement, si vous pouviez faire une petite comparaison entre les deux.
Bah, disons qu'au Paris FC, j'étais encore dans mon cocon, j'y avais été formé, j'y avais grandi, j'avais quelques collègues de la même génération qui évoluaient avec mon équipe première. Quand j'arrive à Toulouse, bon ben, je suis seul. C'est entre guillemets, c'est la jungle. Hein.
Faut un peu livré à vous-même finalement.
Livré à moi-même, tout à fait. Et puis bon, il faut vite être performant et puis ça s'adapter. Donc, mais bon, c'est que de très bons souvenirs.
Alors Jules, vous étiez défenseur. C'est une question que l'on a rarement posée, mais qu'est-ce qui vous a fait devenir défenseur? Est-ce que vous l'avez été depuis le début de votre carrière? Est-ce que c'est un coach qui vous a repositionné? Comment est-ce que vous avez, on va dire, pris goût à cette tâche défensive?
Eh ben, à la base, je suis un meneur de jeu de formation. Mmh. Et mon premier match en 3e division, je l'ai fait en tant qu'ailier gauche. Donc c'était Pierre Lechante qui tenait absolument à me faire jouer sur le côté gauche, mais j'avais beaucoup de mal à jouer le long de la ligne de touche. Et il s'est trouvé qu'un jour, il manquait, comme d'habitude, hein, c'est un peu les mêmes histoires pour tout le monde, bon, il manquait un latéral gauche. Donc il m'a demandé de jouer à ce poste-là, et j'en ai plus jamais bougé. Donc du coup, quand j'ai signé au TEF, c'était en tant que défenseur. Donc j'ai passé au Paris FC, oui, 4 années en tant que latéral gauche, et bah pour moi, l'important c'était de jouer. Donc peu importe où on me mettait.
Vous avez rapidement pris vos marques, du coup.
Oui, j'ai très vite pris mes marques parce que au Paris FC, j'avais la chance d'évoluer avec des défenseurs d'un certain niveau. Il y avait notamment un international ivoirien, Balagnato, qui m'a donné pas mal de conseils. Et puis bon, à la base, on me demandait de jouer plutôt comme un arrière-ailier. C'était quelque chose qui n'était pas très courant à l'époque. Donc on jouait avec 3 défenseurs centraux et 2 pistons sur les côtés. Donc j'ai d'abord commencé à jouer comme ça. Donc, ce qui fait que ça ne me changeait pas beaucoup de ce qu'on pouvait me demander en tant qu'ailier à la base. Et après, petit à petit, on est passé sur un 4-4-2. Et puis bon, là, il a fallu avoir vraiment des vrais automatismes de défenseur. Mais bon, on a travaillé tous les jours. Et puis avec de l'envie, on peut faire beaucoup de choses, quoi.
Alors, pour le coup, Jules, à l'heure actuelle, c'est vrai que les postes de latéraux, droit ou gauche d'ailleurs, sont amenés à être beaucoup plus offensifs. Il y a une vraie évolution à ce niveau-là. Comment est-ce que vous appréhendez ça, comment est-ce que vous le voyez?
Bah, disons que cette évolution-là, bon, moi je l'ai déjà un petit peu perçu justement quand on m'a repositionné à ce poste-là, parce que jusqu'alors, ce qu'on demandait aux latéraux, à la base, hein, c'était quand même déjà de faire leur boulot, accessoirement d'aller pointer le bout de son nez dans le camp adverse. Mais là, cette évolution aujourd'hui, c'est vrai qu'elle est de plus en plus prononcée, et c'est une bonne chose, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se contenter uniquement de défendre. Il y a une participation offensive qui est très accrue quand on voit des garçons comme Marcelo au Real. Bon, ils passent beaucoup plus de temps à attaquer qu'à défendre. Puis tout dépend aussi de l'environnement dans lequel on évolue, de ce que peut demander l'entraîneur. Mais aujourd'hui, oui, un latéral, il doit amener un plus offensif. Ça c'est certain. Parce que il y a tellement de densité dans le jeu que si on n'amène pas ça, c'est très compliqué de contourner les blocs défensifs, quoi.
Et puis surtout, il faut avoir un sacré bagage physique aussi, parce que les allers-retours, il faut les Faut pouvoir les réaliser pendant 90 minutes.
Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, quel que soit le poste où on évolue, maintenant, physiquement, il faut être au point. Il faut être au point.
Ça, il faut être au point, c'est vrai. Alors, pour revenir sur votre parcours, Jules, vous avez ensuite voyagé au Mans, puis à Thouars. Alors, pourquoi ces choix de carrière, tous d'ailleurs, dans l'ouest du pays ?
Alors, je vais rétablir quelque chose. Je n'ai jamais joué à Thouars.
Jamais ?
Voilà, c'est une erreur de Wikipédia.
D'accord. Et de plusieurs sources, pour le coup,
voilà,
alors ?
Oui, oui. Donc, ouais. Donc Le Mans, j'ai rejoint Le Mans suite à la fin de mon contrat au TEF. Et disons que ça n'a pas été une très très bonne expérience pour moi, puisque j'ai été assez embêté par des soucis lombaires là-bas. Et j'ai pas pu m'épanouir complètement. Alors que l'objectif, en quittant le TEF et en allant dans un club de Ligue 2 qui était ambitieux à l'époque, bon, c'était vraiment de franchir un palier. Bon, malheureusement, ça n'a pas été exactement ce que je souhaitais. Voilà.
Alors en 2003, retour au Paris FC, pour le coup.
Voilà.
Est-ce que vous aviez le sentiment du coup du devoir non accompli pour revenir un petit peu aux sources ou pas du tout la carrière qui a...
À un moment donné, c'est vrai que il y a des périodes comme ça où on se retrouve sur des. Il faut prendre. Hein. Donc, moi, j'avais besoin de jouer, j'avais besoin de retrouver aussi de la confiance et du rythme. Donc, un retour aux sources, c'est toujours bon, quoi.
Et par rapport à votre premier passage, est-ce que vous avez vu des similitudes ou des différences ? Parce que bon, des années sont passées, vous aussi avez mûri, donc forcément il y a peut-être eu une atmosphère différente au moment de votre retour, ou pas du tout ?
Plutôt différent. Ouais. Plutôt différent. Non, mais c'est vrai que le Paris FC, à la base pour moi, bon, c'est un parcours de jeunes jusqu'à l'équipe première. C'est sûr que quand on revient, c'est complètement différent. Et on voit aujourd'hui, bon, le club maintenant... a très fortement évolué. J'en suis vraiment content parce que c'est vraiment ce que j'aurais aimé pouvoir connaître avec mon club formateur. Bon, mais aujourd'hui, j'espère que le club arrivera à accrocher l'élite, ce qui serait fabuleux après avoir envisagé la descente en national. Donc, c'est une très bonne chose.
Vous gardez contact avec le club ?
Non, aujourd'hui, j'ai pas de contact avec le club. Malheureusement, comme je vous disais, bon, il y a eu quand même énormément de changements depuis le temps. Et puis bon, c'est vrai que je suis plus tout jeune. Hein. il s'en est passé des
les
années.
Les années passent pour tout le monde.
Ah, oui, oui. Les années passent.
Jules, avec toute cette carrière, est-ce qu'il y a des joueurs que vous avez rencontrés? Je crois qu'il y a un certain Didier Drogba que vous avez dû croiser. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui, à un moment donné, ont percé et qu'on a connu, nous, au plus haut niveau, quoi ?
Ah bah, des joueurs que j'ai eu la chance de rencontrer au long de mon parcours. Bon, bah, je pense notamment au nouveau président du Libéria, qui a connu une carrière exceptionnelle, quoi. Donc, je pense qu'il faut en parler. Parce que il envoie un formidable message à tout le monde, se dire que bah, le football peut mener à tout, et même à la présidence d'un État, c'est juste fabuleux, quoi. Donc, je parle bien sûr de Georges Weah. Voilà. Donc, moi, ça me laisse sans voix, quoi.
Pour beaucoup de monde, ouais. Jules. Et puis, pour revenir sur votre carrière, il y a cette expérience à l'étranger, en Écosse, ouais. À Overs. Qu'est-ce que vous retenez de ce passage ? Enfin, déjà, aussi, avant toute chose, pourquoi ce choix-là ? Pourquoi l'Écosse, à ce moment-là ? Qu'est-ce qui a fait que...
Ben, disons que tout au long de mon parcours, je dirais que j'ai quand même eu la chance d'évoluer quasiment à tous les niveaux, en partant du niveau amateur jusqu'au plus haut niveau en Ligue 1. Et l'étranger, c'était une expérience que j'avais jamais connue. Donc l'opportunité s'est présentée, je l'ai saisie. Et très honnêtement, je n'y ai passé qu'une année, mais j'en garde un excellent souvenir parce que j'ai découvert une ferveur et une passion dont on en parle souvent. Mais on s'aperçoit quand on y est que c'est pas quelque chose de fin, quoi. Que là-bas, les gens aiment vraiment le football, quoi.
Ils vivent pour ça.
Ah, oui. Ils vivent vraiment pour ça. C'est fabuleux, c'est fabuleux.
Alors après, Julie, il y a le retour en Occitanie, Saint-Jean, Masgrenier, Savennes, pour ne citer que ces clubs. Qu'est-ce qui a motivé votre retour particulièrement en Occitanie? Peut-être pas, par exemple, aux alentours de Paris, où vous avez aussi fait une partie de votre carrière.
Disons que quand j'ai fait le choix d'arrêter le foot de haut niveau, on s'est posé la question avec ma femme de savoir si on s'installait en région parisienne ou si on revenait dans la région du sud-ouest. Et puis bon, finalement, je pense que la météo aidante dans le sud-ouest a fait qu'on a préféré s'installer ici. Et c'est vrai que je n'étais pas parti pour jouer. Mais bon, quand je suis arrivé ici, donc j'ai été assez rapidement sollicité et petit à petit, bon, je me suis laissé un petit peu entraîner dans de nouvelles aventures et je regrette pas parce que ça m'a permis en fait de revenir à la base, le football amateur qui m'a tout donné, qui m'a fait découvrir pas mal de choses et puis je me suis aperçu au final que j'avais encore pas mal de choses à donner, donc c'est pour ça que année après année, j'ai continué à jouer tant que mes jambes me portaient, puis que l'envie était là surtout quoi.
Et à chaque fois en tant que latéral gauche.
Non.
Que vous avez parfois été.
Non. À Saint-Jean, j'ai joué en tant que latéral gauche, et puis au Masgrenier, j'ai repris un poste au milieu de terrain. Et puis, pour quelques années plus tard, toujours au Masgrenier, descendre d'un cran, carrément en défenseur central. Donc, ce qui fait que j'ai fini en fait en tant que défenseur central.
Et comme beaucoup de professionnels d'ailleurs qui démarrent sur le côté et qui finissent dans l'axe. L'année dernière, pour vous, Jules, elle s'est parfaitement déroulée avec la Bastide du Temple, une montée en excellence, une victoire en coupe. Est-ce que c'est votre meilleur souvenir, on va dire, post-carrière professionnelle?
Oui, on peut dire que c'est le meilleur souvenir, je sais pas, mais en tout cas, c'était des moments très très forts. Ça c'est certain. Et j'ai connu des bons moments en pro, mais même en amateur, on peut connaître aussi de très grands moments. Et c'est quelque chose qui restera, ça c'est sûr. Parce que, comme je dis. Les titres, que ce soit au-dessus ou en bas, ça reste des titres. Et puis, ce sont les aventures qu'on vit avant tout. Quoi. Voilà.
Alors, cette saison, vous étiez au départ reparti avec la Bastide du Temple, mais vous l'aviez précisé en introduction, là, en ce 29 janvier, vous êtes sans club. Est-ce que vous pouvez, on va dire, justifier un petit peu, expliquer pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là, du coup?
Disons que suite au gros parcours qu'on a eu à faire l'année dernière et puis même l'année d'avant, donc j'avais déjà passé deux saisons à la Bastide du Temple où on faisait de très bonnes saisons. Je m'étais posé la question à l'issue de la saison dernière, à savoir est-ce que je repartais pour une troisième année, en sachant que dans mon esprit, un cycle de trois ans dans un club... Je pense que c'est suffisant. Et on m'a donné des indications comme quoi la grève pouvait continuer à prendre pour qu'on fasse encore une troisième saison ensemble. Malheureusement, je me suis aperçu assez rapidement, déjà dès la préparation, qu'il y avait des choses qu'on avait perdues en route. Et j'en ai eu la confirmation... Quelques semaines plus tard, donc ce qui m'a poussé à arrêter, parce que moi je pars du principe que si je n'ai plus la force de donner ce que j'aime donner et que surtout en plus que en face j'ai pas le sentiment que les gens sont impliqués à 100%, je pense que c'est pas la peine de poursuivre quoi.
Voilà. Il y a eu un changement dans le groupe, même peut-être dans le staff qui a fait que...
Non, c'est surtout un changement d'attitude en général que j'ai senti moi. Alors peut-être que certaines personnes ne le sentaient pas, mais je pense quand même qu'à mon âge, on commence à percevoir certains signes avant-coureurs. Et puis c'est difficile, c'est très difficile quand une équipe est montée très très haut L'année d'après est assez compliquée.
Rester les pieds sur terre, peut-être, finalement.
Voilà, tout à fait. Donc malgré tous les messages que j'ai pu faire passer, les mises en garde, parce que je savais que ça allait être compliqué de repartir. Bon, ça a été assez difficile. Voilà.
Juste pour préciser, c'est très très haut. C'est vrai que réaliser un doublé coupe championnat, ce qui s'est passé pour la Bastide la saison dernière, même si c'est, ils étaient en promotion d'excellence, donc monter en excellence et gagner la coupe face au champion d'excellence qui joue aujourd'hui en promotion de ligue, qui est Beaumont de Lomagne, avec une finale assez exceptionnelle. C'est clair que voilà, c'est monté très très haut et c'est assez rare, comme il dit, pour un groupe. Bah, de gagner une coupe et un championnat, même en amateur, c'est pas commun. Donc voilà, je pense qu'effectivement, pour repartir derrière, on le voit en pro, hein, de toute façon, hein, quand il y a une compétition qui a été remportée, les mois qui arrivent derrière sont compliqués.
Sont déterminants, ouais. On voit le Real de Madrid. Hein.
Oui, exactement. Voilà. Oui, exactement. Bon. Alors, vous avez parlé justement, Jules, de votre envie de coacher. Qu'est-ce qui vous attire dans cette... est-ce que peut-être pour vous d'abord, comme beaucoup d'anciens professionnels, c'est la suite logique des choses, ou est-ce que vous percevez ça tout simplement peut-être de votre volonté pure d'entraîner ?
Alors pour moi, c'était pas quelque chose que j'avais envisagé, pour être tout à fait honnête. Et je me disais que j'entraînerais certainement jamais. Et c'est pour ça aussi que je préférais continuer à jouer, parce que je me disais que c'était quand même beaucoup plus simple d'être joueur que d'être entraîneur. Et avec du recul, je pense qu'effectivement, il vaut mieux profiter au maximum d'être joueur de champ, parce que c'est vrai que quand on passe de l'autre côté, c'est vraiment autre chose. Mais aujourd'hui, j'ai mis le pied à l'étrier, et c'est vrai que cette envie de transmettre qui m'accompagne et qui m'accompagnait déjà depuis quelques années, parce qu'à partir du moment où on commence à prendre de l'âge, forcément, on recule un petit peu sur le terrain, on commence à regarder les choses avec un autre œil, entre guillemets déjà un peu comme un coach. Et aujourd'hui, je me dis qu'effectivement, je pense que j'ai pas mal de choses à apporter. Et c'est mon souhait.
À court terme, ou est-ce que vous préférez d'abord un petit peu prendre du recul, étant donné que bon, avec la Bastide, ça reste frais quand même.
Disons que oui, là, actuellement, je pense que j'ai encore besoin de pouvoir récupérer, de recharger les batteries, parce que c'est sûr que deux ans à la Bastide, à jouer, à entraîner, bon, ça m'a demandé beaucoup, un investissement assez important, d'autant qu'à côté, bon, j'ai mon activité professionnelle et la famille. Mais je pense que je devrais être d'attaque au mois de juin pour pouvoir étudier un projet intéressant.
Alors, à l'instar de Nabil Taider, hein, que nous avons reçu début janvier, vous avez pu porter le maillot de votre sélection nationale. Trois capes, tout à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations en 2000. Alors, ça ne s'était pas forcément bien passé, puisque vous aviez terminé dernier de votre groupe avec un nul et deux défaites, mais ça doit tout de même rester un grand souvenir, un grand prestige que de pouvoir honorer son pays.
Ah, je dirais que c'est un souvenir extraordinaire. Et j'ai mis du temps avant d'aller en équipe nationale et je ne regrette pas de l'avoir fait, parce que cette compétition... je souhaite à tout joueur de la vivre. Alors quand on est européen, c'est le championnat d'Europe des nations. Donc, la Coupe d'Afrique, c'est quelque chose. C'est quelque chose parce que y a tout un folklore, il y a toute une ambiance, et puis il y a toute cette pression qui vous transcende. Hein, et non, je dois dire que c'est vraiment un souvenir extraordinaire. C'est vraiment un souvenir extraordinaire, même si en termes de résultats, effectivement, ça n'avait pas été très fort, puisqu'on on sort dès le premier tour suite au nul et aux deux défaites qu'on a enregistrées. Mais c'était quand même contre des adversaires qui avaient tous participé à une Coupe du Monde très récemment. Donc pour une nation comme le Congo, à ce moment-là, C'était déjà énorme, parce que ça nous a, si vous voulez, ça faisait un petit moment quand même que le Congo n'avait pas revu la Coupe d'Afrique. Donc pour nous, c'était très fort.
Justement, par rapport à ça, vous disiez que ça avait mis du temps avant de rejoindre la sélection. Est-ce que c'est dû au fait que les sélectionneurs ne vous sélectionnaient pas, ou est-ce que c'est dû au fait qu'il y a peut-être une espérance sur le fait d'intégrer l'équipe de France, ou est-ce que quelque chose comme ça ?
Alors, disons que j'avais été régulièrement convoqué par le Congo. Malheureusement, j'ai souvent décliné leur convocation parce que, il faut savoir que au niveau des sélections africaines, c'est pas toujours simple, surtout quand on évolue en Europe. Donc, moi, ma priorité, c'était quand même de performer en Europe. Et le Congo, à ce moment-là, ne m'offrait pas suffisamment de garanties pour pouvoir évoluer sereinement sans me mettre en difficulté au sein de mon club ici, quoi. Voilà. Donc, je pense quand même qu'aujourd'hui, les choses ont quand même évolué beaucoup plus favorablement. Donc, les joueurs partent plus facilement évoluer avec leur sélection.
Alors en ce moment, d'ailleurs, se déroule le championnat d'Afrique des Nations. Alors pour rappel, cette compétition ne dispose pas des mêmes critères que la CAN, qui est un petit peu plus, entre guillemets, médiatisée, que l'on connaît un peu plus, puisque ce championnat d'Afrique met aux prises des sélections dans lesquelles les joueurs doivent évoluer dans les championnats africains. Alors le Congo était encore en lice jusqu'hier soir, puisque la Libye a éliminé votre sélection, Jules, en quart de finale, au tir au but. Déjà, est-ce que vous portez un œil sur cette compétition et sur cette sélection du Congo qui y est engagée ?
Alors là, sur cette compétition-là, non, c'est vrai que j'avoue que j'ai pas jeté un œil dessus, parce que c'est vrai que je trouve un petit peu dommage que cette compétition, pour moi, elle vient quand même se rajouter sur une compétition comme la CAN qui a une portée médiatique beaucoup plus importante. Là, pour la suivre, il faut quand même être quand même assez, on va dire, assez initié. Puisque on a malheureusement, donc, si vous voulez, il n'y a que des joueurs des sélections qui évoluent dans leur pays qui doivent représenter donc
leur sélection
à ce moment-là. Bon, très franchement, non, j'avoue que je n'ai pas prêté un œil particulier à cette compétition-là, mais j'apprends effectivement que la Libye a éliminé le Congo.
Oui, au tir au but. Le Congo a fait une très belle phase de groupe. 2 victoires, 1 nul devant l'Angola, le Burkina Faso et le Cameroun. Mais voilà, hier, défaite au tir au but après un match nul de 1-0.
Bon, j'espère au moins que ça permettra de préparer les bases pour l'équipe qui ira défendre ses chances pour la CAN, quoi.
Justement, pour faire un point sur la sélection congolaise, Jules, on peut dire qu'elle est quand même en quête de stabilité depuis plusieurs années. Il y a 8 sélectionneurs qui se sont succédés depuis mars 2011. Alors, il y a un petit flou dans lequel se trouve la sélection congolaise. De quel œil, avec quel œil est-ce que vous regardez ça, vous ?
Bah, disons que c'est malheureusement quelque chose qui est assez récurrent. Et bon, c'est pas nécessairement le cas au Congo, hein. Je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve assez fréquemment dans les nations africaines. Bon, on va parler d'un manque de patience. C'est-à-dire qu'on nomme un sélectionneur, il a l'objectif de se qualifier. S'il n'est pas qualifié, on le change. Ou alors, quand il est qualifié, s'il ne gagne pas, on en met un autre. Donc, j'avoue que c'est assez compliqué de pouvoir construire quelque chose. Malheureusement, parce que dernièrement, il y a eu quand même des sélectionneurs qui ont fait du bon boulot. Je pense notamment à Claude Leroy, bon, qui a pas souhaité poursuivre. Mais il serait sage quand même à un moment donné d'amener un peu plus de stabilité, quoi, parce que c'est très difficile de construire quelque chose comme ça.
Alors, d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est en ce moment un Français qui est aux commandes depuis mars, Sébastien Minier. Est-ce que vous le connaissez ?
Non, absolument pas.
Depuis mars 2017, il est...
Je crois qu'il avait pris la suite de Pierre Lechantre.
Oui, ouais. Voilà, il est en lice depuis mars 2007. Et d'ailleurs, au cours de ses qualifications pour la CAN 2019, le Congo sera aux prises avec la République démocratique du Congo, la RDC. Ouais. Et on rappelle aussi, hein, pour les amateurs de Ligue 1, où Reims figurait il y a quelques saisons, que le capitaine est Prince Onyangé, qui a porté les couleurs du Stade de Reims. Alors, On va pas tarder à conclure cette interview. Jules, mais tant qu'on est en janvier, ben on va vous demander qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous pour l'année, l'année 2018 qui a démarré il y a maintenant un petit peu plus de 4 semaines.
Oh, ben disons que de bien récupérer, puis d'emmagasiner du jus pour pouvoir redonner tout ça derrière, quoi.
Bon, très bien. Alors, juste avant de passer à la musique, Jules, on va vous poser des questions un petit peu plus légères, voilà, du tac au tac, selon vos préférences, pour en savoir un petit peu plus sur vous. Alors Jules, si je vous demande Pep Guardiola ou José Mourinho?
Pep Guardiola.
Didier Deschamps ou Zinedine Zidane?
Didier Deschamps.
Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo?
Lionel Messi.
Lilian Thuram ou William Gallas?
Lilian Thuram.
Fabio Cannavaro ou Carles Puyol?
Fabio Cannavaro.
Jules Timbakala, sélectionneur du Congo, un jour possible ou non?
Ma foi, il ne faut jamais dire jamais.
Alors cette année, la Ligue 1 congolaise, elle est pour l'étoile du Congo ou pas?
Il y a de fortes chances quand même.
Barça ou Real?
Real.
OM ou PSG?
PSG, bien sûr.
Bayern ou Dortmund?
Bayern.
Rugby ou basket?
Basket.
Tennis ou hand?
Tennis.
Roger Federer ou Rafa Nadal?
Oh, Roger Federer.
Et encore plus en ce moment. Thé ou café?
Thé.
Chocolatine ou pain au chocolat?
Chocolatine.
Pizza ou McDo?
Oh, punaise. Pizza italienne.
Mer ou montagne?
Mer.
États-Unis ou Australie?
États-Unis.
Italie ou Espagne?
Italie.
Si vous deviez coacher une équipe de Ligue 1, à part Toulouse, étant donné que vous aviez joué à Toulouse.
Le Paris Saint-Germain.
Et enfin, Jules, quelle équipe africaine fera le meilleur parcours à la Coupe du Monde, selon vous?
L'Égypte.
L'Égypte? Très bien. Eh bien, rendez-vous en juin pour la réponse. Alors, juste avant de passer au quiz, messieurs, je vous propose une petite pause musicale. Isaac Hayes, Tim From Shaft. Juste avant, pourquoi cette musique, Jules?
Ce son a été composé en 71, année de ma naissance. Et j'aime l'interprète, Isaac Hayes. Donc, à tel point que mon fils s'appelle Isaac.
Eh bien, c'est parti. I'm gonna go get some more.
that pride of dick that's a sex machine to all the chicks. You're damn right. Who is the man that would risk his neck for his brother, man? Can you dig it? Who's the cat that woke up out when there's danger all about? Right on. They say this cat Shaft is a bad mother. I'm talking about Shaft. He's a complicated man, but no one understands him but his woman.
From Shaft de Isaac Hayes avec mon super accent anglais, Jules. Donc 1971, un an avant 1972, qui est pour tout Congolais une date référence, j'imagine.
La victoire en CAN.
Eh oui, la victoire en Coupe d'Afrique des Nations pour le Congo 1972. Eh bien maintenant, nous sommes en 2018 et en 2018, les choses ne changent pas puisque c'est le quiz. Messieurs, Kevin contre Jules, vous êtes tous les deux. Alors, pour. Rappeler les règles, Kevin, ça fait longtemps que vous n'êtes pas venu ici. Et Jules, bah, c'est votre baptême pour le coup. 10 questions sur l'actualité sportive. Voilà, dès que vous pensez avoir la bonne réponse, vous dites votre prénom et vous aurez peut-être la victoire au bout. Alors sachez que Xavier Bedos, qui est très souvent à la place de Kevin, a une longue série de victoires, mais c'est un petit peu plus compliqué pour Footpi en ce moment. Donc on va voir si Kevin va réussir à remettre le bleu de chauffe. Alors messieurs, première question, attention à ne pas se mettre en état d'alerte. Alors ça concerne un joueur de foot. Ça, c'est, je précise bien sûr, c'est actualité bien évidemment autour du football.
Attention. C'est en Ligue 1 ?
Oui, c'est en Ligue 1. Et attention à ne pas se mettre en état d'alerte. Pour le coup, j'insiste sur le mot alerte.
À Paris ?
Non.
Non ? Ils font pas mal l'actualité en ce moment. Donc,
c'est vrai.
Il y a eu l'Olympique Lyonnais ce week-end aussi. Le mot alerte ne m'interpelle pas. Mais...
Non. Mot alerte avec un joueur qui a marqué hier.
Oh, qui a marqué.
Un défenseur central.
Un défenseur central. Ah, Adil Rami ?
Oui. Alors pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas se mettre Kevin. En état d'alerte
voilà, c'est ça. Il va emménager, si je ne me trompe pas, avec Pamela Anderson. C'est
exactement. Ça. Voilà. L'Adil Rami, dont on connaît la relation avec Pamela Anderson, a affirmé ne pas avoir regardé Alerte à Malibu, où l'actrice paraissait en vedette. Mais il dit cependant avoir vu, je cite, cette femme courir sur la plage. Voilà. Donc, ouais. Il s'est quand même bien renseigné.
Un peu comme nous tous, on n'a jamais regardé,
oui,
mais on
voilà,
sait qui
mais
c'est.
On voit qui c'est. Voilà, oui, je vois, ça me dit quelque chose. Voilà, le fameux. Premier point pour Kevin. Deuxième question. Excuse ou pas le règlement, c'est le règlement.
Monsieur Charles.
Ça aurait pu.
Kevin, c'est l'arbitre qui a arbitré le Paris Saint-Germain ce week-end, qui a mis un carton jaune à Edinson Cavani après qu'il ait marqué le but de son record. Parce qu'il avait enlevé son maillot.
Exactement.
Et qu'il s'est excusé en lui serrant la main, mais que c'était le règlement.
Et exactement. Voilà. Et comme l'indique la règle, il s'est fait averti malgré la poignée de main avec l'arbitre et le sourire de celui-ci. Manifestement, gêné de devoir réprimander le matador pour le coup. D'ailleurs, tant qu'on y est, messieurs, est-ce que comment est-ce que vous jugez cette règle ? Est-ce que vous trouvez ça un petit peu absurde de devoir avertir quelqu'un qui retire son maillot ? Surtout que, bon, très souvent, il retire son maillot pour laisser apparaître un autre t-shirt derrière, pour le coup. Comment est-ce que vous percevez cette règle ?
Bah, je ne vois pas trop le sens de cette règle, personnellement. Donc, après, si l'objectif, c'est d'éviter de faire passer des messages d'une manière ou d'une autre... Ok, mais à partir du moment où le joueur, à la rigueur, enlève son maillot et qu'il est les torse nu, je vois pas pourquoi il prendrait un carton. Bon, et puis faut aussi comprendre des fois que dans ces moments-là, quand on marque et puis qu'on a l'impression d'être délivré de quelque chose, bon, on peut faire des gestes de ce genre-là, mais bon, c'est pas méchant, quoi.
Voilà. On se rappelle une semaine avant, c'est Memphis Depay qui avait enlevé son maillot pour laisser apparaître ses fameux tatouages. 2-0 pour Kevin face à Jules.
Attention,
troisième question. Pour lui, c'est clair, ils l'ont oublié. Et là, pour le coup, messieurs, ça s'est passé en tribune.
Paris Saint-Germain ?
Non.
Non.
Toujours en Ligue 1 ?
Toujours en Ligue 1.
Toujours en Ligue 1. Alors, est-ce que c'est sur une banderole qui aurait été affichée et qu'ils ont zappé d'enlever ?
Non.
Non.
Oh, il est dur, il ne nous donne même pas un indice.
Ça va arriver, ça va arriver. C'est par rapport à un président. Messieurs.
Oh, Valdemar Quitta.
Bien vu, Jules. Le président nantais, Valdemar Quitta, a suivi la rencontre de son équipe au Roudourou. Depuis la tribune de presse, la raison, eh bien, il n'aurait pas reçu d'invitation en loge présidentielle. Ouais. Le club Guingampé a démenti cette information. Bon, qu'importe, pour le bouillant dirigeant canari, son équipe s'est tout de même imposée 3-0. Mais c'est vrai que pour le coup, voilà, il fallait le voir. Il était debout en tribune de presse en première mi-temps. Enfin, pendant l'intégralité de la partie, d'ailleurs. C'était assez cocasse comme scène. Et Jules qui revient.
Je ne l'avais pas. Comme ça, pas de regret.
Comme quoi, voilà, je donne pas d'indices, mais certains sont quand même intéressants. Quatrième question, messieurs, mais c'est qu'ils vont nous la faire, cette remontada ?
Toujours en Ligue 1 ?
Toujours en Ligue 1.
Metz ?
Eh oui, exactement. Le FC Metz est bouillant depuis un peu plus d'un mois. Distancé après le premier tiers du championnat, les Lorrains ont mis la gomme et confirmé leur embellie en dominant Nice samedi 2-1. Résultat, 14 points empochés sur les 6 derniers matchs et un écart qui se resserre avec les 17 et 18e, puisqu'il y avait 14 points à la 10e journée de différence. Désormais, il n'y a plus que 6 unités d'écart pour les Messins qui font un superbe retour. Ça aussi, ça nous rappelle forcément, on espère la même issue quand même pour Toulouse, ouais. qui a aussi remporté 3 points.
On espère
3 points
si capitaux. Toulouse n'est pas dans la charrette.
Exactement.
Ça serait, voilà. C'est...
Voilà. D'ailleurs, il y a eu le débat là aussi, messieurs. Je profite de vous avoir autour et d'avoir Jules aussi qui va très certainement, on l'espère en tout cas, passer sur le banc très prochainement. On a eu ce débat sur le fameux choc psychologique que pouvait avoir le changement d'entraîneur. Est-ce que vous y croyez ? On va dire ça a marché par exemple à Bordeaux avec Gustavo Poyet et la victoire bordelaise, mais on va dire un changement à long terme. Est-ce que pour vous, c'est vraiment le bon terme, ce choc psychologique ?
Disons que quand on parle de choc psychologique, déjà, je pense que l'effet, c'est quelque chose, c'est un effet qui est assez court. Donc, sur la durée, on peut pas parler de choc psychologique. Donc, mais aujourd'hui, il y a eu un changement sur le banc du TFC. Il est certain que il y a un autre discours. Donc, il y a une remise en cause de tous les joueurs et de l'ensemble du club. Ça peut amener quelque chose. Ça peut amener quelque chose ponctuellement et permettre aux joueurs de repartir sur une nouvelle dynamique.
D'ailleurs, les stats disent qu'il n'y a pas de choc psychologique puisque la plupart des résultats après un changement d'entraîneur est une défaite, ou en tout cas pas une victoire. D'ailleurs, le TFC a perdu en Coupe de France après le départ de Pascal Duprat. Mais il faut savoir que le FC Metz, qui fait une remontada, a perdu, je crois, trois ou quatre premiers matchs sous l'ère Hans, qui venait d'être de remplacer l'ancien entraîneur Isberger. Mmh. Donc en fait, le choc psychologique, il n'est pas si souvent que ça sur le court terme.
C'est très relatif en fait. Ouais.
Je pense que c'est un travail à moyen ou long terme.
Bien sûr. Le maintien pour le TFC, messieurs, vous y croyez ?
Oui, j'y crois dur comme fer. Ouais.
Faut toujours y croire jusqu'au bout.
En tout cas, on l'espère.
Tant que on le sait, je pense qu'on est les mieux placés. Je dis on parce que je fais partie de la région maintenant, mais je pense qu'on sait maintenant, avec ce qui s'est passé avec le TEF, qu'il faut y croire jusqu'à la dernière seconde. Tant que c'est pas fait, il faut y croire.
Exactement, exactement. Il y a un barrage. Toulouse-Auxerre, vous êtes pour qui, Kevin ?
Ah, pour Auxerre. Là, c'est non négociable.
La question piège.
Non. Après, j'avais.
Bon, faut-il encore qu'Auxerre soit barragiste ?
Oui, voilà. c'est assez peu probable, mais bon.
On fait une petite remontada. On est sur 7 matchs sans défaite, dont un match nul contre le Paris FC le week-end dernier. Donc, le cœur, toujours le cœur, Auxerre. Il y aurait eu Pascal Duprat encore sur le banc, que j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer. Ça aurait peut-être été différent, mais voilà. Non, Auxerre, toujours.
Bon messieurs, en tout cas, pour ce match de ce soir, de partout, entre Kevin et Jules, cinquième question, Ancelotti et Benitez, un point commun qui les différencie de Zidane ?
Ils ont tous les deux entraîné en Angleterre.
Non, ce n'est pas ça.
Ils ont été tous les deux limogés par le président Pérez du Real Madrid ?
Alors, oui. Mais il y a un détail par rapport à ce qui s'est passé ce week-end. Qui les différencie de Zidane, pour le coup.
Alors, ce week-end, ils ont gagné.
Oui.
Ils ont gagné. Qu'est-ce qui les différencie par rapport... Parce qu'ils auraient perdu encore. On aurait dit, voilà, ça aurait été plus facile.
Justement.
Donc, est-ce qu'ils ont... Bah, du coup, ils ont été limogés après une victoire. Victoire soit Ligue des Champions pour Carlo.
Ils ont été limogés pour le coup, mais regardez par rapport au calendrier.
Contre la même équipe.
Contre Valence.
Exactement. Ouais. Exactement, Jules. Voilà. Les deux premiers coachs ont perdu leur place d'entraîneur au Real à la suite d'une contre-performance contre Valence. Et alors qu'ils traversent une période compliquée, Zizou a vu son équipe triompher 4-1 et relancer une machine qui ne demandait que ça. Décidément, ce Zizou, il est vraiment pas comme les autres, parce qu'aller gagner 4-1 à Valence, qui quand même réalise une superbe saison en plus cette année, c'était... Voilà, il fallait le faire peut-être. Hein. On parle souvent aussi, pour Didier Deschamps, de belle étoile. Vous y croyez, vous, à ces destins comme ça, qui on a l'impression que rien ne peut leur arriver à ces coachs.
Il y a le travail. Après, il y a une étoile sûrement, mais il y a forcément le travail. Comme tout grand joueur, si on parle des très grands joueurs aujourd'hui qui sont Ronaldo ou Messi, qu'on apprécie ou pas l'un ou l'autre, ils bossent. Il n'y a pas de secret. Donc après, ils ont sûrement une très bonne étoile, mais ils travaillent aussi derrière.
Comme on dit, la chance, elle se provoque. Hein.
Elle se provoque complètement. Donc Zidane, Deschamps... On a peut-être encore plus cette impression avec Zidane parce qu'il est tout neuf dans le métier, mais il y a un travail de fond qui est énorme. Ça, il faut jamais l'oublier. Quoi.
Sachant que Deschamps, partout où il passe, il gagne. Alors pour l'instant, l'équipe de France, il l'a emmené en finale sans gagner, mais c'est quand même partout où il est passé, il a eu des résultats. Quoi.
En espérant que ça continue, en juillet, si ça peut continuer jusqu'en juillet, ce sera encore mieux. 5 questions de passé et Jules qui a pris l'avantage. 3 à 2, 6ème question messieurs, en route pour le Grand 8. C'est en France.
Kevin, il y a les 8e de finale de la Coupe de France dans une semaine ?
Non, ce n'est pas ça. C'est par rapport à une série.
Il y a une série qui est en préparation, non ? Il y a pas quelque chose qui est lié au football ?
Une série de victoires.
Ah, une série de victoires. Ok, sur une série de victoires en Ligue 1 toujours ?
Non.
Non. Donc, c'est en France ?
Oui.
Ouais. Du coup, Ligue 2 ?
Oui.
Ouais. Pas le Paris FC, ils ont fait match le week-end dernier.
Reims peut-être ?
Oui, Jules, exactement. C'est le Stade de Reims qui est plus que jamais leader de Ligue 2. 10 points d'avance sur leur dauphin Nîmes et ils le doivent à leur forme du moment. 7 victoires d'affilée en championnat. Et ce soir, à l'occasion de la réception de Lorient, le leader de Ligue 2 peut accroître son avance et empocher un 8e succès consécutif. Et ça fait 4 à 2 pour Jules qui décidément prend ses distances. Ouais. Septième question, messieurs. Après le Real à Bernabeu, une autre forteresse européenne est tombée chez elle en Coupe nationale.
Kevin, il y a eu City qui est tombé ce mois-ci, mais en Coupe, Liverpool.
Ça s'est passé ce week-end.
Ce week-end.
On parle en Espagne ou
Alors, c'est en Angleterre que ça s'est passé.
Tottenham doit rejouer son match, il me semble.
Une forteresse, donc c'est dans les quatre premiers.
C'est un club emblématique.
En gros, quoi. Ouais. C'était la Cup ce week-end.
Oui.
C'est ça.
Voilà. Il y a un club qui est.
Chelsea ?
Non.
Non. United ?
Non.
Arsenal ? Arsenal, ils sont pas tombés. Ils étaient déjà éliminés, je crois, d'ailleurs. Liverpool ?
Oui. Anfield a été le théâtre de l'élimination des Reds de Liverpool en FA Cup.
Quant au West Brom.
West Brom, exactement, Julien. En effet, créé la sensation en disposant des hommes de Jürgen Klopp, 3 buts à 2, quelques jours après la sortie de route du Real contre Leganés. C'est donc un autre grand club européen qui raye une découpe nationale. Pour le coup, 4 à 3, le suspense, messieurs, est toujours là.
C'est serré, là.
Messieurs, huitième question. Bousculé comme jamais, vainqueur comme toujours, 16 points d'avance.
Barça, enfin Kevin.
Non.
16 points d'avance. Kevin, le Bayern ?
Oui, exactement. Le Bayern Munich, qui était mené 2-0 à la 12e minute à domicile par Hoffenheim, ont tout simplement fait leur remontada. Eux ensuite, ils ont lancé la machine pour marquer 5 buts, s'imposer et ainsi conserver les 16 points d'avance sur Leverkusen et Schalke 04. Le Bayern a encore montré qu'il était en route pour décrocher un 6e titre consécutif. Voilà, 16 points d'avance pour les hommes de Jupp Heynckes, dont le retour est plus que gagnant, manifestement. 4 partout, messieurs, il reste 2 questions. L'avant-dernière. Bon anniversaire.
Bon anniversaire à Jules, non, c'était il y a 15 jours. Hein.
Ça aurait pu.
C'est un anniversaire d'aujourd'hui ou du week-end ?
Très exactement, d'hier, du 28 janvier.
Yaya Sanogo ?
Non.
Oui, Yaya, c'était il y a pas longtemps. Ouais.
Donc c'est un anniversaire d'hier ?
Ouais. Du étranger, français ?
Alors, ce n'est pas d'une personne.
C'est pas d'une personne. Je crois que je l'ai vu passer ce truc-là. Je l'ai vu passer, mais c'était les. C'est pas Kevin, c'est pas les 20 ans du France-Espagne de l'ouverture du match du Stade de France, quelque chose comme ça.
Donc les 20 ans.
Les 20 ans du match d'ouverture, enfin de.
Exactement. C'est le Stade de France qui fêtait hier ses 20 ans. Inauguré le 28 janvier 1998, la plus grande enceinte de notre pays accueillit alors sa première rencontre. L'équipe de France recevait l'Espagne, victoire 1-0, but de Zidane. Et moins de 6 mois plus tard, le stade était le théâtre de la victoire en Coupe du Monde. Alors espérons encore une fois le même dénouement pour cet été. 5 à 4 pour Kevin. Il reste une question, messieurs. Alors justement, on en a parlé en ce moment, se déroule le championnat d'Afrique des Nations. Mais quel est le pays hôte ?
Question. Je sais pas, la Libye ?
Non.
Kevin, l'Afrique du Sud ?
Non. C'est beaucoup plus proche de l'Europe.
Je vais faire par élimination le Maroc.
Le Maroc, voilà. Voilà, la victoire pour Kevin, du coup, exactement, la cinquième édition du tournoi. C'est le pays des Lions de l'Atlas qui accueille la compétition. Jules sur la ferme. Il a craqué sur la fin, voilà. Alors, poignée de main très sportive.
Je signalerai quand même que c'est la deux fois que je gagne sur des questions sur les pays africains. Parce que la dernière fois, Fred Chaïeb, je l'ai eu sur son pays d'origine et qu'il est reparti en me haïssant, c'est je ne vous dis pas dans la voiture. Donc.
Eh bien, voilà. En tout cas, c'est une victoire pour Kevin 6 à 4. Merci beaucoup, Jules, pour votre sympathie et d'avoir accepté notre invitation. Bien encore une fois, pour 2018, on vous souhaite le meilleur et de trouver un banc le plus vite que possible.
Non, je ne suis pas spécialement pressé non plus, mais en tout cas, je vous remercie pour votre invitation et ça m'a fait très plaisir d'être présent ici ce soir.
Eh bien, écoutez, plaisir partagé. Merci beaucoup, Kevin.
Merci.
De nous avoir accompagnés. Merci, Jean-Loup Arzac, pour la réalisation. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine pour la 11e édition d'OxyFoot. Bonsoir à tous.